Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 mai et je suis ravie de vous accueillir dans cette émission autour de l'actualité mayennaise, bien sûr, où on va parler aujourd'hui de cette opération sans voiture menée à Cran hier après-midi. Vous entendrez quels étaient les objectifs et puis aussi peut-être un peu la manière dont ça a été pris. Est-ce que ça va être refait? Réponse avec l'un des élus en charge de cette opération, de ce dossier-là. Vous entendrez aussi la footballeuse ex-internationale Marinette Pichon qui était à Laval hier pour l'avant-première de son film autobiographique, un biopic donc, Marinette, qui sortira le 7 juin prochain sur les écrans. Là, c'était donc en avant-première avec une ovation, une standing ovation à la fin du film et des échanges assez forts avec le public très présent au Cinéville à Laval hier soir. Et puis nous sommes jeudi, évidemment. Jeudi, vous le savez, c'est Pensée Locale, notre cycle de reportage autour de Pensée Locale, justement au sens très large. Et là, on va se rendre du côté de la Loire-Atlantique pour parler du potager d'Hector. Ça, ce sera plutôt dans une deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on va faire un rapide tour de l'actualité avec ce nouvel immeuble évacué à Laval à cause d'un incendie. Ça s'est passé la nuit dernière dans le quartier d'Hillard. Les flammes sont parties d'une cave. Et donc des habitants d'un immeuble ont été évacués. Un adolescent de 15 ans, lui, a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Laval. Donc ça, c'était à partir de minuit hier soir. Et les 60 personnes qui ont dû être évacuées ont pu, elles, regagner leur appartement vers 3h30 du matin. Et donc effectivement, ils ont dû être 6 habitants, pardon, ont dû être relogés par le bailleur social de l'immeuble à cause de cet incendie. Et puis un accident de la route dans le Nord Mayenne, ça s'est passé hier à Châtillon-sur-Colmont, au lieu dit Coupé, vers 20h30. Et la victime est un homme de 22 ans. Il a dû être héliporté au CHU d'Angers en état d'urgence absolue. Et donc l'intervention a pris fin vers 1h du matin. Et puis un petit clin d'œil dans les rues de Laval ce matin, vous avez peut-être entendu les chansons de Tina Turner dans les haut-parleurs de la ville, manière de rendre hommage à la chanteuse qui s'est éteinte hier à l'âge de 83 ans. Et puis je vous en parlais tout à l'heure, à Cran, les parkings près du centre-ville étaient bien remplis hier et les rues du centre-ville historique, il faut le dire, assez vides en ce début d'après-midi. C'était la première édition de Cran sans auto, une expérimentation menée par la municipalité dans le cadre entre autres du défi mobilité qui se poursuit toute cette semaine dans la région des Pays de la Loire. Cette opération Cran sans voiture de midi à 18h hier se voulait un test pour faire prendre conscience de la nécessité de limiter nos émissions de CO2 en nous déplaçant. Et même si Vincent Guillet, l'adjoint en charge de l'écologie et du développement durable à la ville de Cran, reconnaît une communication trop tardive, il insiste sur le bien fondé d'une action au périmètre limité.
Là, en fait, ça correspond vraiment le centre ancien, surtout, hein, les Halles, etc., place du Pilori, rue des Halles, etc. On va faire une demi-journée, donc là, on a fait de 12h à 18h, un mercredi après-midi aussi, pour que les parents se disent, tiens, ben, aujourd'hui, comme on peut passer dans la ville plus facilement, ben, autant emmener les enfants aux activités en vélo ou à pied, etc., quoi. Donc, c'est de la sensibilisation. Et puis, c'est de la prise de conscience. Il y a une prise de conscience nécessaire et indispensable qu'il va falloir, dans l'avenir, réduire nos émissions de CO2. Il y a déjà une échéance qui est 2030. 2030, voyez, on est en 2023, 7 ans. Il faut qu'on réduise de 50% nos émissions de CO2 en 7 ans. C'est considérable. Moi, je ne trouve pas qu'en faisant une opération comme ça, on va trop vite. Je pense qu'il est grand temps de sensibiliser les habitants à des changements de pratiques. Et c'est très bon pour la santé. Les cardiologues vous le disent tous qu'il faudrait marcher au minimum 20 minutes par jour, tout le monde, pour notre cœur. Donc c'est bon pour la santé, c'est bon pour notre planète. Et puis, ben, faut pas croire que parce qu'on met une rue piétonne, que ça va arrêter le commerce, quoi. Et au contraire, on leur permet éventuellement aujourd'hui d'utiliser l'espace public pour leur devanture, agrandir leur devanture pour faire envie aux gens de faire fonctionner le commerce. Moi, je dis de 12 à 18 heures, une fois par an, c'est pas la fin du monde non plus, je crois. Il faut relativiser, on va pas bouleverser le monde en faisant ça. Mais c'est, pour moi, c'est surtout symbolique et c'est pour vraiment afficher une prise de conscience, quoi. Si on favorise les déplacements doux par les pistes, les aménagements, on a installé plusieurs endroits de la ville, des endroits pour attacher les vélos, et ça en fait partie. Pour le moment, on n'a pas d'objectif précis sur mettre des rues piétonnes ou autres. C'est vraiment de faire comprendre aux gens que la rue, c'est un espace public qui n'est pas réservé qu'aux voitures.
Une première journée sans voiture donc qui pourrait en appeler d'autres l'année prochaine. En parallèle, les élus de Cran réfléchissent à la mise en place d'un pédibus pour accompagner les enfants à pied sur le chemin de l'école. Et puis on va rester à pied et avec un ballon au pied avec Marinette Pichon et donc les spectateurs de la projection en avant-première de son biopic Marinette, c'était hier soir au Cinéville de Laval, l'occasion de parler football féminin, mais aussi de plein d'autres sujets. Vous allez le voir juste après avoir écouté CVC avec Lonely People, ça c'est tout de suite dans l'AJT du local sur l'autre radio.
Living a lonely lifestyle. All of the love.
C'était CVC Lonely People dans l'agité du local sur l'autre radio. Vous êtes bien soit sur le 101.7, soit sur le 107.9 ou bien sur l'autreradio.fr à nous écouter. Et on va poursuivre cette émission comme promis avec la première footballeuse française à avoir décroché c'est la première footballeuse française à avoir décroché un contrat professionnel, la première aussi à avoir marqué en Coupe du Monde. Marinette Pichon était au Cinéville à Laval hier pour l'avant-première du biopic qui lui est consacré, sobrement appelé Marinette. Près de 300 personnes ont assisté à la projection, parmi lesquelles de nombreuses footballeuses du Stade Lavallois. Un film autour des nombreux combats de l'ex-internationale pour pratiquer le foot, être reconnue, mais aussi contre les violences de son père ou encore pour faire accepter son homosexualité. À l'issue de la projection, les échanges ont été nourris et nombreux, à la fois avec la réalisatrice Virginie Verrier au téléphone et avec Marinette Pichon elle-même, et on y a glissé notre micro.
Tu veux jouer ?
Je peux pas, je suis enceinte.
Bah, c'est pas une raison, ça.
Merci, maman.
Et on n'en parle pas à papa, hein ? C'est notre secret.
Allez, vas-y, ma poule !
La gonzesse, t'as rien à foutre sur le terrain, va jouer à la poupée, hein.
Parler d'équipe mixte au-delà de 16 ans. J'ai tout essayé, tu sais bien.
Je suis meilleur que tous les mecs.
Les gars, regardez, c'est Pichon.
J'ai d'autres projets pour toi, figure-toi.
J'ai été appelée pour l'équipe de France.
Je suis trop fière de toi.
Tu veux que ça me foute? Vas-y, dégage.
Tu vaux rien, regarde-moi, ça crève les yeux, t'as même pas le niveau.
Je m'appelle Marinette Pichon, ancienne internationale française de football. Et je le répète encore, ça ne parle pas que de football. On a la sensation, parce que Marinette était une ancienne internationale, qu'on va retracer sa vie et sa carrière uniquement. Ce n'est pas le cas. Il y a plein de messages super importants et essentiels dans le développement de notre société à travers ce film réalisé par Virginie Verrier. Je pense que ce qui est important, c'est que ce message, elle puisse se l'approprier, ce message de résilience, de performance, de combattante, voilà, de concurrence, parce que le sport n'est pas toujours tendre. Et aujourd'hui, ce sont elles qui deviennent les ambassadrices et aussi les ambassadeurs, parce qu'on avait aussi des joueurs pros ce soir du stade Lavallois, donc c'est cool. Et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec tout ce monde.
Alors, la première question, Vierge, c'est comment toi et moi, on a collaboré pour la construction du scénario, et comment toi, tu m'as associé dans ce projet, dans ce magnifique projet de biopic?
Bah, écoute, on a réalisé pas mal d'entretiens, toi et moi, où j'ai pris beaucoup de notes, tu te souviens. J'ai rencontré aussi ta mère et ta sœur, et puis j'avais appréhendé ton histoire par la biographie. Donc une fois que j'ai glané toutes ces sources, ces anecdotes, je me suis enfermée pour écrire. Voilà, pendant de longs mois, et ça c'est un exercice solitaire. J'ai parlé avec toi de temps en temps de certains événements que je voulais traiter, je voulais te prévenir, voilà, que je tenais à traiter certaines choses, l'équipe de France, l'agression de ton père envers ta grand-mère, voilà, et t'expliquer ce qui motivait à inclure des scènes parfois dures au film pour que tu comprennes, et puis que tu me donnes ton aval. Donc on a échangé comme ça au téléphone.
Ah, c'est vrai que ça s'est passé voilà, comme ça, et je le dis, et je tiens encore à te remercier, Virginie, d'avoir respecté mes souhaits, mes doléances, et quelque part, toi et moi, on partage beaucoup de ces points communs qu'on avait envie de partager au grand public, et tu l'as fait très bien, donc encore une fois, merci.
Oui, et puis je tiens à dire que tu m'as laissé très libre et que de toute façon, on a eu une connexion et que tu as joué le jeu à fond, de toute façon. Voilà.
Moi, c'était pour savoir, ça fait quoi comme sensation de chanter la Marseillaise devant un stade tout rempli à la Coupe du Monde?
Alors ça, c'est une sensation qui est absolument fabuleuse. Parce qu'elle te fait passer par un ascenseur émotionnel en fait, où t'arrives sur le terrain, t'es remonté à bloc, t'es convaincu que tu vas être nickel, et puis en fait, dès que les premières notes commencent à retentir, bah, t'as les jambes qui tremblent, t'as la main qui fait comme ça avec la coéquipière, t'as l'émotion qui te prend, la gorge qui serre, et puis tu te reprends parce que t'as un match à faire, et en fait, tu fais ça pendant quasiment toute la Marseillaise, jusqu'au coup de sifflet de début de match, où là tu te dis, bon bah ça y est, je peux lâcher les chevaux et puis prendre du plaisir. Mais c'est fabuleux d'être devant tout un public qui vient voir ton équipe et t'encourager, et c'est une sensation que je vous souhaite à toutes, à mes filles un jour, ou même de vivre quelque chose de fabuleux comme ça, parce que ça vous porte et ça transmet des émotions, mais aussi ça développe de belles valeurs de partage. Moi, ce que je peux vous dire, les filles, c'est que la première des choses, c'est de garder les pieds sur terre et de toujours savoir pourquoi vous pratiquez du sport, qui souvent nous amène à la passion, au partage, à l'échange, au dépassement, au développement de certaines valeurs comme le respect, comme l'entraide. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument être vigilant pour... ne pas perdre la connexion entre la réalité, parce que quand on a des envies de haut niveau, ben des fois on s'écarte un peu de la réalité et ça peut nous jouer des tours. De toujours aller sur ce terrain, sur ce rectangle vert avec envie et passion, parce que ben quand on n'a pas envie, c'est compliqué, ça devient une contrainte. Donc de garder cette flamme qui vous habite toujours. De savoir arrêter si un jour vous avez la chance de pouvoir décider si vous êtes au haut niveau ou si vous êtes juste dans un championnat dans lequel vous vous éclatez, vous prenez beaucoup de plaisir et que vous êtes à saturation, ben d'arrêter au bon moment pour ne pas avoir ce dégoût du football. Parce que bien souvent, on arrive, on est déçu de quelque chose et il y a une rupture qui se fait alors qu'on a partagé des tas de choses avec ce sport. Et moi, j'ai été vigilante là-dessus, et ce serait mes conseils.
On est les premières françaises à venir jouer une Coupe du Monde. Il n'y a plus aucune défaite.
Il y a tout à construire encore pour le football féminin en France.
Comment vous voulez qu'on fasse le poids alors que nous, on n'est même pas payés ?
Il semblerait que la fédération ait pris enfin les choses en main et va changer un peu tout ça avec une volonté de professionnalisation de la D1 Arkema, d'intégration des anciennes internationales et puis d'autres projets aussi de réforme à destination de ce football. Donc j'en suis très heureuse. J'espère que ça va changer très rapidement, qu'on va enfin trouver un diffuseur, qu'on va pouvoir voir nos bleus. Ça, c'est essentiel et important. Maintenant, c'est des discussions que ces institutions doivent avoir. Et nous, on a besoin en tout cas de visibilité et surtout lors des grands événements. C'était ma volonté, celle de Virginie, d'aller dans l'intimité et d'offrir la possibilité d'ouvrir des aspects dont on ne parle pas trop souvent. C'est vrai qu'il n'est pas facile à regarder, mais pour moi, c'était important de parler de la violence conjugale, de l'alcoolisme, du handicap, de l'homosexualité, de l'inclusion des femmes, etc., etc., parce que c'est de tous ces faits dont fonctionne la société aujourd'hui. Donc voilà, il faut en parler. Il faut le dire, et moi j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir le faire. Alors ça me paraissait naturel de le faire. Je pense que ça reste toujours un fait de société, parce que déjà tu ne peux pas convaincre 100% de la population d'accepter ce qui t'arrive dans la vie, ça c'est la première des choses. Deux, tu ne peux pas obliger les gens à porter ou à avoir des convictions. Par contre, quand tu évolues dans un championnat, comme c'est le cas pour les garçons sur la Ligue 1, ben, tu devrais être régi par les règles de cette compétition. Donc là, on ne parle pas d'individualité, mais plutôt de collectif, et j'espère que plus tard le collectif sera capable de porter un peu plus haut et qu'on n'aura plus d'homophobie ni de discrimination comme ça a été le cas avec Vinicius il y a encore quelques jours ou deux jours.
On a vu aussi que dans le film, il y a un journaliste qui vous pose une question qui n'a pas de rapport avec le foot et donc savoir comment vous avez vécu votre homosexualité au sein du foot et comment ça s'est passé.
C'est jamais simple, hein. je vous dirais, écoutez, c'était parfait. Je me suis rendu compte que j'étais différente et puis tout a roulé. Ce serait vous mentir parce que, en fait, l'homosexualité, ça m'est tombé dessus. Je me suis demandé pourquoi moi je regardais les filles et pourquoi pas je devrais regarder les garçons. Donc forcément, ça a été compliqué. Il y a eu cette phase assez longue d'acceptation où j'ai essayé de comprendre ce qui ne fonctionnait pas chez moi, parce que c'est la réalité, ça nous tombe dessus. Et après, ben, soit on avance, on essaye de comprendre et d'accepter, ou on fait face à un vrai déni et on gâche sa vie, parce que c'est aussi un risque. J'ai eu la chance d'être supportée par ma mère avec un regard extrêmement bienveillant, ma sœur également. Et je crois qu'à partir de ce moment-là où je savais que j'avais une forme d'approbation, j'ai commencé à vivre les choses un peu mieux, forcément. Après, ça reste mon choix de vie, mon choix d'assumer. Mais c'est pas pour autant que je suis une militante en disant « c'est super, il faut tous devenir lesbienne ». Pas du tout, d'accord ? C'est hyper important de faire bien la différence, parce que c'est important que les parents puissent comprendre que ce genre de choses, on ne décide pas. Et que parfois, encore aujourd'hui, on a des jeunes femmes et des jeunes filles qui sont jetées de chez eux parce que ils décident d'être sincères et honnêtes avec leur famille et avec leur orientation. Et c'est aussi pour ça que Virginie avait toute ma confiance, parce que je savais qu'elle allait porter ces messages et les retranscrire de la façon que je voulais qu'ils soient retranscrits. Et elle a eu énormément de respect pour ça, pour toutes les étapes de ma vie. Et quand on est réalisateur ou réalisatrice, on sait que bien souvent, quand on dit un oui, on n'est jamais sûr du rendu. Et aujourd'hui, plus j'avance dans le temps, plus je rencontre les personnes, les salles et autres, et plus je me dis, c'est une grande dame parce qu'elle a su respecter ça.
Marinette Pichon.
Welcome to the United States.
Tu es une prodige. J'ai jamais vu une chose comme toi.
Je dirais qu'on a réduit ce retard, mais que le retard principal qui nous laisse encore à la traîne n'est pas encore officialisé, c'est-à-dire avoir une D1 professionnelle avec des clubs qui soient compétitifs, des salaires cohérents pour permettre aux joueuses de pratiquer pleinement et puis de développer leur potentiel. Et du coup d'être performantes face à des joueuses qui, elles aussi, ne sont que professionnelles et pratiquent et développent leur capacité et sont capables d'adapter leur charge de travail. Donc on a ça vient. Ce que disait le président aujourd'hui lors de notre échange téléphonique, c'est qu'on est vers les bonnes orientations et les bonnes volontés. Donc je suis contente de pouvoir entendre ça et d'autant plus contente de l'entendre de la bouche du président lui-même. Donc j'ai envie de me dire que enfin les années sombres vont passer sous la lumière, enfin. Nous, pour notre équipe, oui, on avait la possibilité, sur des temps où on était longuement rassemblés, d'avoir notre compagnon ou compagne nous rejoindre sur des moments clés et des moments bien identifiés. Pour ce qui est de l'équipe américaine, oui, les mamans pouvaient recevoir leurs enfants et passer des moments avec eux. On sait que c'est important d'avoir ce côté ressourçant. Il n'y a rien de tel que la famille pour se ressourcer. Et ça, ça montre l'intelligence de la gestion de l'humain aux États-Unis. Je pense que dans ma tête, j'avais déjà enclenché cette réflexion de « je vais arrêter ma carrière ». L'élément pourquoi ça se fait à ce moment-là, parce que je suis fatiguée, et puis parce que je me dis que peu importe si je continue, il y aura rien qui va évoluer, puis je suis plus non plus, je suis plutôt vieillissante que rajeunissante, donc c'était pour moi logique de pouvoir me dire c'est la fin, quoi, parce qu'il y avait d'autres choses qui m'attendaient avec ma femme et puis la volonté d'avoir notre magnifique merveille qui est venue quelques années après.
On finit par des applaudissements, et oui, puisqu'ils ont été nourris à la fois à la fin de la projection et à la fois à la fin des échanges, avec toute la salle des 300 personnes, donc debout. Et puis maintenant, vous, si vous n'avez pas eu la chance de le voir hier, eh bien, il va falloir attendre un petit peu pour voir ce film Marinette de Virginie Verrier, puisque la sortie nationale est prévue, elle, le 7 juin prochain. On va parler effectivement eh bien, d'une toute autre chose, d'une reconversion en maraîchage en Loire-Atlantique. Ce sera dans le cadre de Pensée Locale, juste après la pause musicale avec Tchégué et le titre du même nom qu'on écoute tout de suite.
Mama na yo waza wapi, papa na yo waza wapi. Hey, Tchégué, hey, Tchégué. Mwasi na yo waza wapi, kombo na yo weza nini. Hey, Tchégué.
Toujours à l'écoute de l'agité du local sur l'autre radio, on vient d'écouter Tchégué, bien sûr. Et puis le temps d'un reportage, on dézoome un petit peu de la Mayenne pour s'arrêter au niveau de la région des Pays de la Loire avec évidemment Pensée Locale comme chaque jeudi. Et on prend aujourd'hui la direction de la Plaine-sur-Mer en Loire-Atlantique avec Jonathan Brosseau, un jeune maraîcher qui vient de s'y installer. Il a créé le potager d'Hector. Il cultive des légumes bio de saison et vend sa production et les produits de partenaires locaux lors d'un marché à la ferme. Reportage réalisé par Frédéric Mispel-Bollom de Jade FM.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Jonathan Brosseau, jeune maraîcher. Il vient de s'installer à la Plaine-sur-Mer et de créer le potager d'Hector. Il y cultive des légumes bio de saison et vend sa production ainsi que les produits de partenaires locaux lors d'un marché à la ferme bi-hebdomadaire. Fraîcheur et production locale, garantie.
À l'origine, je ne suis pas du tout issu des métiers agricoles. Ma formation initiale, c'est la bioinformatique.
La bioinformatique ?
Oui, tout à fait.
Et donc concrètement, donc, vous travaillez dans des bureaux ?
C'est ouais, ça, dans ouais, de grands ouais, open space avec ouais, beaucoup de monde. Et j'ai travaillé justement dans les milieux de la banque, des assurances. Ça a été la première partie de ma vie professionnelle.
Choisir le maraîchage pour donner du sens à sa vie.
Perte de sens, un rouage parmi tant d'autres. Et puis, assez rapidement, le métier de maraîcher m'a titillé, en fait. Donc, je suis allé rencontrer quelques professionnels du secteur pour comprendre un peu le métier, comprendre ce que l'on fait réellement dans des structures plutôt petites. D'ailleurs, c'était surtout le format de petites structures qui m'attirait. Puis, j'ai découvert un métier passionnant, un métier plein de sens, très stimulant intellectuellement parlant, stimulant aussi physiquement, puisque c'est un métier qu'il ne faut pas se le cacher, qui est assez dur. Comme aujourd'hui, là, travailler dehors par des températures négatives, par exemple. J'ai découvert un métier. Beaucoup d'a priori sont tombés au moment de ces visites. On va être comptable, on va être entomologiste, biologiste, agriculteur, on va être commercial, on va être tout ça, en fait.
Il y a des années, il y avait une ferme à la plaine.
C'est ça, c'était l'exploitation de monsieur et madame Richard à l'entrée de la plaine. Depuis que j'ai commencé ce métier, en fait, j'entends régulièrement des témoignages et des anecdotes, notamment d'un exploitant qui se situait du côté de la Gravette, hein. Monsieur Gantier, qui avait des cultures spectaculaires à l'époque. Voilà.
Aujourd'hui, c'est le jour de marché. Ici, les consommateurs ont aussi une démarche engagée, tout comme les collectivités qui réfléchissent de plus en plus aux circuits courts.
Mais comment vous avez défini votre projet d'une façon très synthétique ?
Alors le projet, c'était une ferme maraîchère sur petite surface, capable de faire travailler de 1 à 3 personnes en fonction des opportunités de croissance de la structure, et puis d'y produire toute l'année des légumes diversifiés en agriculture biologique.
D'accord.
Je pense que j'avais appris par la mairie qu'il allait y avoir un potager bio dans le secteur. Pour moi, c'était important de pouvoir consommer local, donc on en profite.
Et pourquoi est-ce que vous trouvez important d'acheter local ?
Soutenir pour moi l'agriculture rurale et locale pour être au plus proche en fait des producteurs qui sont à côté de chez nous, et donc là c'est une vraie chance d'avoir le potager d'Hector à côté de chez nous. On sait qui les prépare, on sait d'où ils viennent, de quelle terre. On a pris des épinards, du chou-fleur, des poireaux, des oignons, des pommes, donc une variété de produits de saison, légumes et fruits.
Ces ventes à la ferme représentent la grande majorité en fait du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je complète ce chiffre d'affaires avec des ventes qui sont réalisées auprès de collectivités ou de boutiques autour, par exemple de cantines, de restaurants mm-hmm. scolaires, notamment à la Plaine-sur-Mer, à Saint-Michel. Et
donc les cantines sont aussi donc d'accord pour consommer local.
Voilà, consommer local et bio.
Quel genre de personnes viennent dans votre potager ?
C'est des gens de tous horizons. C'est vraiment très représentatif de la démographie locale, en fait, hein, la démographie de nos communes côtières, des jeunes, des moins jeunes. Chacun fait en fonction de ses propres besoins. Et voilà. On est des personnes qui ont été déconnectées d'une certaine saisonnalité, des choses, des légumes, des fruits, etc., des choses qui poussent à l'extérieur. Et donc, il est bon de se refaire cette saisonnalité dans la tête, en fait.
Très bien, ce sont d'excellents légumes. Et je voulais 2 poireaux, mais des petits.
Penser local, c'est aussi penser collectif.
Après, dans les grands enjeux à venir, c'est le réchauffement climatique, en fait. En premier lieu, la diminution de la ressource en eau. On voit qu'on a une ressource qui est un peu moins abondante. Comment est-ce qu'on doit tous réagir vis-à-vis de ça ? Parce que je pense que c'est une démarche collective. Et puis, je ne sais pas, à l'avenir, si jamais vraiment les choses s'arrangent pas, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur la priorisation des usages ?
Retrouvez le potager d'Hector sur son site, lepotagerdhectortoutattaché.fr.
Il y a une réflexion à avoir tous ensemble sur ces sujets-là.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Frédéric Mispelblom pour Jade FM.
Et oui, et dans le cadre donc de Pensée locale que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site l'autreradio.fr. et faire. Puisque, et oui, ça y est, c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce jeudi. Évidemment, restez à l'écoute de l'autre radio puisque les émissions, elles, se poursuivent. À 19h, il y aura La Sagesse de Tugue avec cette question ce soir. L'objectivité est-elle possible en sciences humaines ? On parlera de Max Weber, de Michelet, d'Anaximandre, de Thalès et de Freud. Et oui, bien sûr, ça c'est dans La Sagesse de Tugue. Et nous, on revient demain pour la dernière émission de cette semaine. Je vous souhaite bien sûr une très belle journée ensoleillée.